c'est le bipède le plus rapide au monde.
Pas ça ! Non !
Ses articulations et tendons très élastiques génèrent une puissance phénoménale. Il confère au volatile vitesse et foulée bondissante.
Non ! Non ! Non !
Qu'est-ce que cela peut bien être ?
Un oiseau ? Un bijou ?
Peut-être un corbeau ?
L'autruche est le plus grand oiseau actuellement vivant, mais elle est incapable de voler.
Il est bien connu que les autruches, au long cou, enfouissent leur tête profondément dans le sable quand elles se sentent menacées.
Faire l'autruche, c'est refuser de voir un problème en espérant qu'il s'en aille tout seul.
Ce qui est embêtant dans les oiseaux, c'est les mecs.
L'autruche.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'Autruche, l'émission qui vous fait sortir la tête du sable. Votre programme présenté par les étudiants de l'ESJ Pro de Montpellier et de l'Université Paul Valéry. Je suis Théoline Cotentin, votre présentatrice, accompagnée de Julie Clément. Bonjour Julie.
Bonjour Théoline, bonjour à toutes et à tous. Cette semaine, dans l'Autruche, nous nous intéressons au monde de l'humour et plus particulièrement aux femmes qui le composent. Remarques sexistes et manque de parité, le monde de l'humour demeure aujourd'hui encore un milieu très masculin. Malgré des efforts pour essayer d'effacer ces inégalités, les femmes humoristes restent sous-représentées et doivent faire face à des défis supplémentaires pour s'imposer dans le milieu. Aujourd'hui, nous allons éclairer ces enjeux et questionner l'idée même d'un humour féminin.
Au programme de cette émission, nous recevons deux humoristes montpelliéraines, Julie Brimby et Laura Gallego. Bonjour à vous, merci d'être avec nous aujourd'hui.
Bonjour, un plaisir, franchement très cool.
Bonjour, merci. Bonjour, hyper contente d'être ici.
Durant cette demi-heure ensemble, nous aurons également la chance d'entendre la chronique de Lucille Castelluccia et d'aller à la rencontre des chroniqueurs de La Dernière, émission diffusée sur Radio Nova, grâce au reportage de Maëlle Couillard. Mais revenons dans un premier temps à nos invités. Julie, Laura, vous êtes donc toutes les deux expertes des comédies clubs montpelliérains. Vous faites des sketchs notamment au Red Line, au Fridge, au Broc. L'humour fait partie intégrante de votre quotidien. Alors ma première question sera la suivante. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer dans le stand-up ?
Vas-y, Laura.
Moi, c'est parce que, en fait, alors depuis que je suis petite, je suis une grande consommatrice de stand-up. J'ai toujours aimé ça. Et en fait, mon grand frère, hein, qui a 9 ans de plus que moi, s'y est mis il y a 4 ans. Et moi, j'écrivais avec lui des sketchs et tout ça. Et il joue sur Lyon. Et en fait, à force d'être allé en voir à Montpellier, et moi, de me prendre d'amour pour ça avec mon frère, il y a un humoriste de Montpellier, Naïm, qui m'a fait monter sur scène, qui m'a obligé à jouer. Il m'a dit, bah, je t'ai inscrit ce jour-là, t'as pas le choix, tu m'entends. Et depuis, ça fait 2 ans et c'est trop bien, quoi. Voilà, je suis hyper contente.
Ouais, ben moi, en fait, ça fait depuis que j'ai l'âge de 8 ans, en fait, que j'ai envie de faire ça. C'est-à-dire que quand c'est ma grand-mère qui me gardait, je regardais Eli Kaku, Muriel Robin, Pierre Palmade, et en fait, j'ai toujours voulu faire ça depuis que j'étais gamine. Mais je pensais pas que je pouvais faire ce métier. Et en fait, moi, j'ai vu pas mal de copains en fait réussir, et j'étais un peu pas jalouse, mais j'étais hyper contente en fait pour eux, et j'avais envie aussi de briller comme eux. Et je me dis, moi aussi, j'ai des choses à raconter, j'ai des choses à dire. Et donc, quand je suis arrivée à Montpellier, j'ai vu qu'il y avait un comedy club, donc le Red Line. Et c'est d'ailleurs le chéri de Laura, qui est humoriste aussi, et qui m'a donné au final pareil, comme Naïm avec Laura. C'est-à-dire, il m'a dit juste une phrase en mode « En fait, moi, c'est pas forcément du courage, c'est juste que j'ai plus rien à perdre. » Et phrase un peu triste en vrai, mais elle a énormément résonné en moi. Et je me suis dit « En vrai, c'est vrai, j'ai plus rien à perdre, j'ai déjà écrit des sketchs et tout, vas-y, let's go, je tente l'expérience. » Et comme Laura, ça fait 2 ans maintenant, quoi.
Super. On a entendu Julie, que vous citiez, Muriel Robin et Eli Kaku comme inspiration. Est-ce que vous aviez d'autres inspirations féminines avant de vous lancer dans le monde de l'humour ?
Ah ouais. Franchement, Florence Foresti, quoi, c'est une légende. Hein.
Ouais, carrément. Moi, je sais qu'à l'époque de On ne demande qu'à en rire, c'était une émission qui passait à la télé entre 2009 et 2014. Il y avait une humoriste qui s'appelle Nicole Ferroni, qui maintenant d'ailleurs a une émission hyper engagée de gauche, féministe et tout, qui est hyper cool. J'ai oublié le nom de l'émission, mais elle est vraiment, elle la dirige, elle est hyper cool. Et une femme qui s'appelait Constance aussi, qui faisait de l'humour un peu trash et un peu surjoué dans la féminité et tout, mais c'était cliché, c'était marrant comme tout. Et elles m'ont beaucoup inspirée, quoi.
Il y a Michel Larocque aussi. Michel Larocque, quand elle faisait son duo avec Pierre Palmade, On peut dire ce qu'on veut de Pierre Palmade, hein, bien évidemment, le pauvre, il a mal fini, mais c'était quand même un super artiste. Et même, voilà, Michel Larocque a été quand même... C'était une humoriste incroyable, quoi. C'était, c'était une femme, je trouvais, qui inspirait vraiment la française type, un peu de l'humour, très classe. Même quand on la voit dans ses films, elle joue tellement naturellement, c'est beau à voir, quoi. Elle était peut-être moins dans l'humour, mais je sais pas, sa présence était dingue. Mais par contre, l'humour, c'est vrai que Florence Foresti, c'est la queen, quoi. C'est la Beyoncé de l'humour français, quoi.
Mais en fait, je pense que même dans tous les cas, toutes les femmes qui passaient, enfin à l'époque, déjà qu'aujourd'hui c'est compliqué de se battre pour arriver en tant que femme en haut de l'échelle en étant humoriste. Alors à l'époque, c'était encore plus dur, quoi. Donc déjà toutes les femmes qui apparaissaient à la télé, elles avaient tout un talent monstre parce qu'elles s'étaient déjà battues mille fois plus que tous les mecs qui étaient présents à la télé. Donc dans tous les cas, toutes celles qui passaient à ce moment-là et qui avaient des représentations, elles étaient toutes hyper inspirantes et hyper cool à regarder, quoi.
Mais justement, comme vous dites, Laura, quand on est une femme, généralement dans le milieu de l'humour, on doit se battre encore plus pour y arriver. Comment on fait aujourd'hui, quand on est une femme, pour se faire une place dans un milieu majoritairement masculin et quelles sont justement les caractéristiques de ce milieu ?
Je pense que la chose à laquelle on pense le plus, c'est quand on est dedans, c'est pour se faire programmer en tant que femme. On parle de plus en plus de parité sur les plateaux, etc. Et c'est hyper dur à atteindre. Mais pour moi, c'est pas que par raison de machisme ou à cause du patriarcat ou quoi que ce soit. Enfin, genre pour moi, c'est vraiment purement parce qu'il n'y a pas assez de femmes juste dans le milieu, quoi. Là, à Montpellier, on a plein d'organisateurs de plateaux et tout qui, le soir, ils envoient des messages à des femmes et des femmes et des femmes pour qu'elles viennent jouer. Et en fait, il n'y en a aucune qui est disponible parce qu'on est juste moins. Et donc, du coup, en fait, ils se retrouvent avec un plateau que d'hommes. Et on est en mode « Ah, mais pourquoi il n'y a pas de femmes ?» Parce que bah, on n'est pas beaucoup. Et donc, du coup, moi, je pense que ça commence déjà par... du coup, nous, on nous fait jouer plus souvent parce que, du coup, on a besoin de pari. Enfin, on a besoin de la parité, donc on nous fait jouer plus souvent. Donc, du coup, les gens, ils commencent à apprécier de plus en plus notre travail parce qu'on commence, du coup, à force de plus jouer, à avoir un meilleur niveau. Et du coup, potentiellement, on inspire des nouvelles filles à jouer qui, elles, doivent reproduire la boucle derrière et derrière, quoi. Mais c'est sûr que l'image qu'on en a au premier abord, quand on connaît pas, ça paraît vachement inégalitaire et tout ça, mais c'est juste que déjà, de base, dans la population du milieu, c'est inégalitaire. Après, en termes de sexisme dans le milieu et tout, à Montpellier, l'ambiance, elle est plutôt cool et tranquille, mais je sais qu'on a des collègues à nous qui ont vécu des trucs genre t'arrives dans la loge et on te dit ah, t'es la copine d'un humoriste. Et toi, t'es en mode bah non, je joue en fait. Voilà, je suis pas même plus un, quoi, je suis en train de jouer. Moi, ça m'est pas encore arrivé parce qu'on est entouré de gens bienveillants à Montpellier, c'est cool, mais je sais que ça traîne vachement encore dans le milieu, quoi. Je sais pas si tu veux dire.
Non, en vrai, t'as tout dit parce que c'est vrai que nous, avec Laura, ce qui est bien, c'est qu'on a la chance au final d'être quand même bien entourés. On a des garçons intelligents à côté de nous. Quand ils nous font jouer, effectivement, on le prend pas en mode ils nous font jouer parce qu'on est des femmes. Ils nous font jouer parce qu'aussi on est drôle. Et en fait, nous, moi perso, je profite de cette parité et de ce manque d'humour féminin parce qu'en fait, nous, on travaille du coup deux fois plus que certains mecs humoristes. Donc c'est vrai qu'on a des propositions tout le temps, donc c'est génial. Effectivement, s'ils me demandent de venir sur un plateau pour équilibrer, mais je m'en fous en fait. Je suis là, trop bien, je prends l'expérience telle qu'elle est. Ça veut dire que je vais devoir travailler encore et c'est génial parce que c'est tout ce qu'on cherche en fait, c'est de bosser dans des comédie clubs. Donc c'est plutôt cool.
C'est vrai que c'est un peu de la malchance dans la chance, quoi. Genre, ça fait un peu... c'est vrai que c'est chiant qu'on soit moins et que ce soit pas assez représenté. Et en même temps, du coup, ce manque de représentation, il nous permet, quand on arrive dans le milieu, en fait, à jouer tout le temps parce que ils demandent que ça, en fait, de faire... pas tous les plateaux, hein. Vraiment, je ne sais pas tous les plateaux. Mais il y a des plateaux à Montpellier qui veulent la parité, qui n'arrivent pas. Donc pour nous, c'est bénéfique. Et pour les autres, on ne va pas jouer chez eux s'ils ne veulent pas de nous, quoi.
Bien sûr. Je me permets de vous interrompre un instant, car c'est l'heure de la chronique de l'autruche. Lucille Castelluccia est avec nous dans le studio. Bonjour Lucille.
Bonjour Julie, bonjour à tous et à toutes. Désolée, mais les filles qui font de l'humour, je trouve ça gênant. Cette phrase, c'est un pote qui me l'a dite un soir au bar et au-delà de remettre en cause toutes mes fréquentations, ça m'a vraiment interrogée. Pour préparer cette chronique, j'ai arpenté les scènes de stand-up, notamment à Montpellier, et le constat est frappant. Sur scène, c'est encore une large majorité d'hommes. Alors j'ai voulu comprendre pourquoi ce malaise, pourquoi le micro, reste-t-il en 2026 une affaire de mec ? Sans surprise, la réponse n'est pas biologique, elle est sociale. Le nœud du problème, c'est le conditionnement. Dès l'enfance, les injonctions diffèrent, on apprend aux filles à être douces, agréables, discrètes. Or, l'humour, par essence, c'est bruyant, ça prend de la place. Chez les hommes, c'est l'inverse. L'humour est encouragé comme un outil de valorisation sociale, voire de séduction. Les codes traditionnels sont tenaces. L'homme séduit par la vanne, il est proactif. Une femme qui rit aux blagues d'un homme, elle le valide, elle flatte son ego. Et on connaît l'adage « femme qui rit », vous connaissez la suite. Dès lors, une femme qui fait rire brise cette dynamique implicite. Elle sort de la gentillesse attendue pour s'aventurer sur un terrain réservé. Elle ne valide plus, elle challenge. Elle devient une sorte de rivale. Et c'est précisément ce qui crée le malaise. Lorsque certains hommes sentent qu'ils perdent ce monopole de l'esprit, la réaction est souvent défensive. C'est pour ça qu'on entend souvent le fameux « on peut plus rien dire ». En réalité, cette plainte, c'est surtout une résistance au changement. Ils n'ont pas envie de partager l'espace avec celles et ceux qu'ils ont longtemps marginalisés. Pendant des siècles, l'humour a été dominé par des hommes blancs, hétéros, qui riaient des autres, des femmes, des minorités. Aujourd'hui, les choses changent et forcément, ça fait peur. Parce que l'humour, c'est un peu synonyme de pouvoir. Et j'ai une exclue pour vous, messieurs. Une étude de l'Université de Californie du Sud, publiée en 2020, montre que les femmes utilisent l'humour de manière tout aussi efficace que les hommes, et souvent de façon plus subtile et nuancée. Une enquête sortie en 2021 a également révélé que les femmes sont perçues comme plus drôles lorsqu'elles utilisent l'autodérision et l'humour situationnel. Parce qu'à force de se faire moquer depuis des siècles, nous, on a appris à rire de nous-mêmes bien mieux que vous. La bonne nouvelle, c'est que les nouvelles générations d'humoristes s'en fichent royalement. Ce que j'ai vu dans les comédie clubs, c'est que c'est la fin de la femme mignonne. Les filles ne s'excusent plus, elles sont crues, elles parlent de leurs règles, de leurs névroses, de politique. Elles prennent la parole et la place. Bref, mettons fin à ce stéréotype sexiste, reconnaissons que l'humour, ce n'est pas une question de genre. Alors mesdames, faites-les ces blagues et qu'enfin, on puisse dire qu'un homme qui rit, vous connaissez la suite.
Merci Lucille pour ce message d'espoir. Julie, Laura, on l'a dit, l'humour c'est du pouvoir. Est-ce que vous pensez qu'une femme drôle, ça fait peur ?
Aux hommes, oui. Oui. Non, en fait, ouais, je pense. Je sais pas, c'est... Pour moi, c'est trop bien. Moi, je suis trop reconnaissante d'avoir le pouvoir de monter sur scène. Je parle de mon expérience personnelle. Moi, j'ai jamais vraiment eu l'impression de recevoir... d'être en concurrence avec les hommes. Moi, j'essaye de faire un humour où j'essaye de toucher tout le monde et de plaire à tout le monde. Et donc, du coup, c'est une mission délicate parce que forcément, je vois dans le regard des hommes qu'il y a un peu plus de défis dans le regard. Moi, est-ce qu'elle va arriver à me faire rire et tout ou alors, des fois, à contrario, j'ai des remarques de mecs qui s'attendent à ce que je fasse un humour un peu plus cru et un peu plus porté sur... les choses dites féminines, je fais des guillemets avec mes doigts, voilà, parce que voilà, mais je ne le pense pas. Et je me prends des remarques des fois en mode, ah ben on s'attendait à ce que tu fasses ça, que tu parles de cul, que tu parles de ta poitrine ou de ci ou de ça. Et je suis en mode, bah, je suis pas obligée en fait, je peux parler d'autre chose que ça et c'est aussi cool. Et donc je pense que c'est un pouvoir qui est génial et que quand il est bien exploité, dans tous les cas que les gens ils aient peur de toi ou qu'ils se sentent pas en confiance face à toi, bah, ça montre juste que tu t'en es bien servi quoi. C'est voilà.
Non mais c'est vrai, t'as tout dit, t'es trop forte. Mais en vrai c'est vrai que les certains mecs du coup quand tu commences à devenir drôle, bah en fait c'est une sorte de confiance en soi aussi et comme tu disais tout à l'heure, bah on a vraiment plus de facilité au final à se moquer de nous parce qu'on l'a fait pendant des années, je l'ai eu au collège, au lycée, et donc du coup bah on prend cette force là et on essaye du coup d'en faire des blagues parce qu'on les a digérées. Et ça devient drôle après. Donc c'est vrai que s'il y a quelqu'un qui essaye de nous attaquer, ben nous, on va attaquer avec de l'humour. Et en fait, c'est tellement plus gratifiant, tellement plus kiffant, en fait, que d'arriver à dégueuler un peu la haine. Ben en fait, nous, on va essayer de dégueuler des blagues et de l'amour par rapport à ça, parce que c'est plus cool, en fait. Non, vraiment.
Et en restant dans les stéréotypes, on entend souvent dire qu'une fille ne peut pas être à la fois drôle et belle. D'où vient ce cliché selon vous et est-ce qu'il a évolué ?
Ah bah alors du coup, quand vous voyez Laura et moi, on est deux bombes, donc en fait, voilà, ça c'est fait, et en plus de ça, on est drôle.
Non, mais je pense que ça vient comme pour les... Je pense que ça vient du même cliché que pour les garçons à l'époque. Genre, les mecs qui étaient juste beaux, on était en mode, bon, ben, ils n'ont pas besoin de développer d'autres capacités que ça. Ils ont juste besoin d'être beaux et voilà. Et je pense que c'est un peu pareil pour nous. Et puis, par rapport à ce qu'elle disait dans sa chronique, d'ailleurs, qui était très cool comme ouais. chronique, hein, où elle expliquait que... c'est aussi des codes qui nous ont été inculqués depuis l'enfance, quoi, où on ne doit pas faire de bruit, on doit être sur le côté et pas se faire remarquer. Et moi, j'ai toujours été entourée de garçons depuis que je suis petite et j'ai toujours voulu faire plus de bruit qu'eux. Et donc, maintenant, je suis contente de pouvoir le faire encore plus. Mais vraiment, c'est des clichés qui, pour moi, qui sont vraiment en train de changer, quoi. Et je pense que plus ça passe et plus on s'affranchit de ça, le nombre de femmes qui sont trop belles et qui sont hilarantes, je pense...
Et Caroline Vigneault, qui ouais. est une ancienne avocate, c'est une bombe atomique, elle est hyper drôle, et c'est une nana qui est engagée, et puis c'est son spectacle, il est drôle, quoi. Il est hilar, elle dénonce aussi, c'est ça
Anne
qui est
Boissard
cool.
aussi, Anne incroyable.
Anne Boissard, elle est dingue. On regarde Camille Tissot.
Ouais, on a plein de humoristes à ressortir, elles sont toutes belles, elles sont toutes hilarantes.
Ouais, hein. Nash, elle est atypique, elle a un charme incroyable, et puis même le roi Felpin, en fait il y en a tellement, en fait il y en a de plus en plus des humoristes féminines qui sont canons, qui sont hyper drôles, quoi.
Et ben, ça donne de l'espoir. Et on a entendu Laura évoquer le terme chose féminine. Est-ce que selon vous justement il existe un humour féminin et qu'est-ce qui pourrait le caractériser?
Ben, moi, je pense que c'est des trucs qui sont... c'est pareil, c'est des idées qui ont... Je pense que c'est des choses qui ont été mises en place par des hommes. Mais c'est juste qu'en fait, pour moi, la femme, elle est arrivée sur scène avec le... Elle avait le droit de rien dire. Et elle parlait pas dans la vie et tout. Donc en fait, elle est arrivée et elle s'est mise à parler des choses qui étaient le plus intimes pour elle, qui la touchaient le plus, des choses qu'elle n'avait pas le droit de dire avant. Donc en fait, elle avait besoin de crier, quoi, et de parler de tout ça. Et toutes ces femmes, elles ont appris en se délivrant comme ça à parler et à dire les choses qu'elles pouvaient pas dire avant. Et donc forcément, ça a créé des thématiques et des trucs qui reviennent plus souvent. Et donc de ça, on en a fait des clichés et des stéréotypes et tout ça. Alors que fondamentalement, il n'y a pas vraiment d'humour féminin si tu regardes... 15 sketchs de femmes. Alors oui, il peut y avoir des thématiques similaires parce que ben, on est des femmes et oui, on a des trucs en commun, mais fondamentalement c'est pas la même chose et chacune amène sa patte et chacune amène son truc, quoi. Mais c'est juste que pour moi c'est juste un effet de groupe où en fait juste elles ont pu parler d'un coup et du coup elles ont parlé de plein de trucs et en fait on était en mode ah ben en fait vous parlez que de ça, oui mais pour une fois on peut parler. Donc du coup voilà, je pense que ça vient de là, les stéréotypes et les clichés vis-à-vis de ça, quoi.
Justement, donc, comme vous venez de le dire, il y avait cette idée un peu que les femmes n'avaient rien le droit de dire. Est-ce que aujourd'hui il y a des sujets ou des mots que vous évitez? Est-ce que quand on est une femme, on peut tout dire, Julie?
Bah, ça dépend au final du clown que vous avez aussi sur scène, en fait. Moi, je pense à Aliénor, qui est une copine à nous, qui est assez vulgaire, mais dans son personnage, et elle est hilare là dans ce qu'elle dit. Donc elle va utiliser beaucoup de gros mots, mais ça lui va bien, c'est dans son perso. Moi je sais que quand je vais peut-être utiliser un mot, peut-être pas le dire maintenant, mais des mots un peu vulgaires, bah si je le crois pas, si je le vends pas,
oui,
pardon, si je le crois pas, si je le vends pas, pardon, si je le crois pas, le public va le voir, en fait. Donc du coup, bah ça peut aussi créer de la gênance, mais je pense qu'on peut tout dire, tout dépend du perso aussi. Moi j'essaye d'être le moins vulgaire possible et ouais, j'ai essayé de l'être pour quand j'étais un peu énervée, même sur scène quand je faisais un perso, et je voyais que ça marchait pas parce que c'était pas moi. Et quand j'ai essayé d'être un peu vulgaire, bah ça marchait pas non plus parce que c'était pas moi. Mais Aliénor le fait magnifiquement bien, il y a des femmes qui le font super bien, et on n'est pas obligé forcément d'être vulgaire, mais c'est tout dépend au final de ce que vous parlez, tout dépend de votre perso, tout dépend aussi de votre personnalité, en fait. C'est vrai qu'une humoriste, si vous essayez de jouer un rôle tout le temps, bah, au bout d'un moment vous allez vous perdre. Il faut être le plus sincère possible, c'est-à-dire être nu sur scène. Mais c'est hyper dur à faire parce que vous allez prendre des années à essayer de trouver votre clown. Bah, si c'est un bigard, bah, c'est génial. Mais si vous essayez d'être bigard alors que vous êtes une petite nana toute frêle, bah, en fait, ça marche pas, quoi. Donc ça dépend, en fait. Ça dépend aussi de sur quel thème vous allez aborder, quoi.
Bah, à ce propos, la journaliste Maëlle Couillard est allée à la rencontre de l'équipe de La Dernière et a notamment pu discuter avec Juliette Arnaud, qui, elle, ne mâche pas ses mots.
Bonjour à toutes. Oui, en effet, il y a quelques jours, je suis allée à la rencontre des chroniqueurs de l'émission humoristique La Dernière, qui est diffusée sur Radio Nova le dimanche soir. Alors, pour celles et ceux qui connaissent, c'est une émission qui traite principalement de l'actualité, mais qui fait aussi l'éducation civique sur des sujets scientifiques et sociétaux. Alors, j'annonce la couleur, quand on interview des humoristes, surtout en bande, il faut beaucoup de patience.
Non, c'est bon. Peut-être qu'il faudrait fermer la...
Ouais. La gueule d'Emeric.
Oh, ta gueule.
Tu vas voir, tu vas regretter d'avoir pensé que c'était une bonne idée de nous prendre en groupe.
Et ben ça, je ne vous le fais pas dire. La dernière voix que vous entendiez juste ici, c'est celle de la seule femme du quatuor permanent de l'émission, Juliette Arnaud. Alors, elle n'est certes pas humoriste de profession, puisqu'elle est issue du milieu du théâtre et de la littérature, mais elle écrit pour cette émission des chroniques sur un ton plus comique que ce qu'elle fait en dehors de la radio. Pour les connaisseurs et les non-connaisseurs, quand on pense à Juliette Arnaud dans La Dernière, on pense à ça.
Oh, nous
oh,
allons...
Non, allez, non, c'est bon, ta gueule.
Voilà.
Allez, bon, si, ta gueule. Pierre-Emmanuel, ta gueule.
Direction. Ébric, il faut qu'on élimine Pierre-Emmanuel.
Je vais te battre.
Arrête de rire.
Ma voix intérieure, elle est en fauteuil roulant et donc j'ai des hauts ta gueule qui sortent pas désirés.
La voix intérieure de Juliette Arnaud lui échappe de temps à autre, et en même temps, qui pourrait lui en vouloir, parce que seule femme dans un groupe de mecs, ça doit pas être évident tous les jours. Eh bien, Juliette ne fait pas que lâcher des « oh ta gueule » à tout va. Elle mène les interviews des invités avec Guillaume Meurice, et puis elle a aussi une chronique à elle. Chaque semaine, elle associe avec humour les récits du cinéma et de la littérature avec les faits de société, et elle a d'ailleurs un sacré talent pour tirer des morales très contemporaines à des histoires parfois très anciennes.
Et moi, je cherche toujours dans l'actu le truc où tout le monde prend des têtes de surpris. Alors que c'est arrivé et qu'il y en a plein les livres, plein les chansons, plein les films depuis à peu près toujours, et c'est très énervant. Enfin, moi ça m'énerve. Enfin, moi ça me chauffe.
T'énerves pas,
juste
c'est violent, parce qu'ils font les surprises. J'aime pas les gens qui font les trucs.
Mais non, des viols.
Des viols. Voilà, bah ça typiquement.
Et en effet, si La Dernière est une émission d'humour, c'est aussi une émission militante, de laquelle Juliette Arnaud se fait la porteuse des voix des femmes et des opprimés. Je lui ai demandé de me décrire un petit peu plus le personnage qu'elle incarne dans l'émission.
Comment la fille.
La touche, mais la touche arme.
Non, mais littéralement la fille.
Oh
non.
Merci. Toi, tu peux pas dire ça, Juju. C'est vrai qu'il est vachement beau, il a du vernis.
Alors ça m'a un petit peu fait tiquer, mais elle admet elle-même son personnage de la fille, c'est un archétype, et un archétype qu'elle assume complètement. Derrière ce terme qu'elle emploie, on y retrouve toute une palette de jeux et d'enjeux propres à la féminité qu'elle prend plaisir à incarner.
Ça va de ce que ça a de féministe, les clichés, féministe, plus sensible, qui a rien à foutre de dire qu'elle a des sentiments.
La fille, elle a des sentiments.
J'ai aucun problème à embrasser la vulnérabilité, la faiblesse, tout ça. Et l'agressivité. Et l'agressivité.
Ouais, l'hystérie. Okay, plus, okay. Mais l'hystérie.
Okay. C'est marrant, parce que ton personnage a évolué par rapport à Inter. Mais avant, t'étais vraiment la féministe. Alors que là, comme ça s'est rééquilibré en termes de féministe dans l'équipe,
ouais.
T'es plus uniquement la féministe.
Ouais.
Alors même si le féminisme s'est plus ou moins rééquilibré dans la bande de La Dernière, notamment avec Pierre-Emmanuel Barré qui a pris l'engagement de ne plus utiliser d'insultes oppressives, donc sexistes ou validistes par exemple, dans ses chroniques, Juliette Arnaud reste la seule fille de l'équipe permanente. Et qui dit trois mecs, dit vanne parfois très douteuse.
C'est Charlie Hebdo mais pas raciste.
Voilà.
Ouais, avec carrément moins de dessin aussi.
Après il y a quand même dessin. Hein.
Non.
Pas tant.
Pas tant.
Et j'avoue que pendant l'interview, entourée de cette bande de potes, Juliette et moi, on avait franchement du mal à en placer une.
Je pense que tu fais du mépris de classe. La Starac, c'est très
bien. Mais bien sûr, je pense que c'est un mépris de classe.
Cette conversation, nous n'allons pas la voir là, maintenant. Vous êtes lourd, vous êtes vraiment lourd. Maëlle, je t'en supplie.
Voilà, en tout cas, c'est vraiment chouette d'entendre une femme élever sa voix pour dénoncer les biais sexistes, racistes, grossophobes des œuvres et de notre société. Dans La Dernière, il y a aussi de nombreuses femmes qui interviennent plus épisodiquement, donc des humoristes comme Mamari, Florence Mendez, Douli ou Guédré, qui explorent des sujets divers et variés, pas seulement reliés à leur qualité de femme. Et puis il y a aussi des chercheuses comme Laëlia Véron, Célia Pelluet ou Tania Louis, qui vulgarisent avec humour leurs travaux. Et franchement, ça fait du bien d'entendre les hommes fermer leur gueule pour écouter ce que les femmes ont à dire. Longue vie aux femmes humoristes, longue vie aux femmes tout court, et comme dirait Juliette Arnaud, merci. Bisous, merci.
Merci Maëlle. On l'a entendu, Juliette Arnaud dit incarner le personnage de la fille au sein de La Dernière, féministe, sensible. Selon vous, quand on est une femme humoriste, est-ce qu'il y a une attente explicite ou non à faire un humour engagé ou féministe?
Non, je pense pas. Je pense pas. En fait, ça, je pense que c'est même... je pense que c'est propre à chaque humoriste après ça, l'attente et la pression que tu te mets par rapport à ce qu'attend le public. Parce qu'en soi, le public, il attend rien, quoi. Le public, il attend juste de rire fondamentalement. C'est sûr qu'il a des prédispositions à croire que. C'est pour ça que quand on parle de stéréotypes et de choses, est-ce qu'on peut tout dire ou pas ? Généralement, chez les femmes, ce qui ressort, c'est le fait de parler de cul beaucoup. Et des fois, les gens se plaignent de ça. Alors que bon, elles sont, les mecs le font tout autant et eux, on leur dit rien, quoi. Mais non, je pense que...
En fait, ça dépend parce qu'en fait, par exemple, moi, quand j'avais fait un sketch, je parlais un peu de cul, bah, de suite, c'est « ouais, ça peut être un peu gênant ». Ouais, mais par contre, mon pote derrière qui va faire que de ça, tu vas parler que de cul, c'est hilarant. Par contre, moi, si j'en parle, c'est gênant. Ça, en fait, ça dépend du public aussi et ça dépend la génération, ça dépend l'état d'esprit du public aussi. On peut avoir un public hyper intelligent où, en fait, on va pouvoir parler de tout et il va écouter autant la femme que l'homme. Et d'autres qui sont un peu vieux jeu où ils vont se dire « bon, ben, elle va nous parler de ses règles, de son endométriose, de la charge mentale. Nous, on s'en fout, en fait. Nous, on veut parler de cul, on veut parler... ça dépend. En fait, ça dépend au final des vibes du public. Mais
et puis de tes attentes personnelles aussi, je pense.
Ouais,
je pense que c'est la façon aussi. Enfin, moi, je sais que là, je suis dans une période où quand j'écris, en ce moment, ça m'intéresse moins de parler de moi et des trucs un peu plus futiles. Et j'ai envie de plus parler de choses où les gens ils se posent des questions derrière et où c'est plus intéressant. Mais après, ça dépend vraiment de chacun parce qu'il y en a qui arrivent à parler entièrement que d'eux et qui malgré ça, arrivent à quand même passer un message qui est trop cool et qui est fort quand même. Je pense que ça dépend vraiment de chacun. Par contre, pour en revenir au truc de la fille, nous, dans le stand-up, quand il y a une fille sur un plateau parmi 5 garçons ou 6 garçons, on dit que c'est la schtroumpfette. Hein. Je sais qu'il y a des filles qui n'aiment pas du tout cette position-là parce que du coup, il y a plus de pression potentiellement parce que du coup, tu es la seule fille de la soirée, donc tu es là pour représenter toutes les femmes sur Terre, visiblement, le soir. Et donc, du coup, il y a de l'attente vis-à-vis de ton humour et de ta prestation. Moi, je ne ressens pas ça. J'ai plus l'impression que le public, il est content en mode « Ah, enfin une femme !» et que du coup, il y a au contraire un entrain supplémentaire. Mais je sais que ça dépend des fois, ça dépend des publics et des fois, ça peut être une pression de te dire « Bah putain, bah, là ce soir, j'ai pas été marrante. Bah, » Du coup, les gens qui sont dans la salle, ils vont se dire « Bah ok, il y avait une meuf et c'était la moins drôle. Hein. Ah bon, bah, toutes les meufs sont pas drôles. » Et bam, on crée un stéréotype, un cliché.
On va les catégoriser et tout. Ouais, voilà. Mais même la dernière fois, là, quand j'avais joué au social, il y avait beaucoup de femmes. Et ben ces femmes-là, au lieu de m'écouter, elles me regardaient de haut en bas. Et elle m'analysait au lieu de m'écouter. Elle, c'est pas qu'elle elle riait pas, elle souriait, mais elle se retenait. Et en fait, je me dis, mais pourquoi t'as rigolé aux blagues de mes potes, enfin, qui n'étaient pas forcément... Enfin, bien sûr que c'était une blague de cul, mais c'était une blague carambar, quoi. Mais ok, donc ça te fait rire. Et en fait, je savais que ma blague, elle était drôle. Je l'ai fait 80 fois. Je sais qu'elle est drôle. Genre, en fait, rigole. Et en fait, il y a un truc aussi avec les meufs, parce qu'on parle souvent, au final, des mecs dans le public par rapport aux meufs. Mais les meufs qui regardent des meufs sur scène, mais parfois, c'est les pires, hein. Il y en a, elles sont ultra dures parce qu'il y a aussi ce truc de, au lieu d'être ensemble, il y a encore ce truc de je la jalouse ou bah tiens, elle est sur scène, comment elle est habillée, ou elle, tiens, elle est un peu grosse, ou tiens, ses cheveux, c'est machin. En fait, c'est la critique, on va dire, physique, et elles vont même pas t'écouter. Et elles vont piapiater ensemble. Ça, c'est
dur,
pire.
Ça, c'est dur.
Parce que vous les voyez, elles sont au premier rang en plus. Elles se mettent toujours au premier rang. Et elle vous analyse au scanner. Et en fait, vous voyez ça. Et c'est atroce.
Et en fait, c'est vrai que quand les femmes n'aiment pas, ça se voit beaucoup. Ça se voit. Nous, on l'a eu plusieurs fois. Et généralement, ouais, le regard, il est plus dur. Mais je pense aussi que c'est parce que... je pense que ça doit être pareil avec les mecs pour les mecs, quoi. Alors, je pense que c'est parce qu'on est des filles.
Les mecs, ils sont un peu...
Non, mais ce que je veux dire, c'est que du coup, vu que... Enfin, nous aussi, on est dans la comparaison et dans le truc où, forcément, je pense qu'on les regarde plus et on... Ben, on est le même être. Donc, du coup, je pense qu'il y a forcément plus de comparaison vis-à-vis de ça. Et
ouais,
on le voit plus.
Mais compétition aussi. Hein,
mais du coup, c'est vrai que des fois, chez les femmes, ouais, ça se voit plus...
Merci les filles, c'est très intéressant. Pour clôturer cette émission, est-ce que vous pourriez nous parler des projets futurs que vous avez potentiellement ?
Moi, je vais faire un 30-30 bientôt. On va s'appeler comment déjà ? Je crois que ça va être On n'est pas prêt. C'est Laura qui nous avait trouvé le titre. On n'est pas prêt. Je le fais avec Lucas. Et vu qu'on procrastine énormément, on ne sait pas quand est-ce qu'on va le faire. Mais là, j'écris mon spectacle. Je fais des vidéos et pas mal de premières parties aussi au Quorum et sur Palavas et puis sur Paris bientôt. Donc voilà.
Qu'est-ce qu'un 30-30 pour les auditeurs qui...
Ah oui, pardon, un 30-30, c'est 30 minutes de blague chacun. Et en fait, après les 30-30, c'est le 1 heure de spectacle.
Ok, super.
Ouais, c'est un peu l'étape entre deux. Moi aussi, j'ai un 30-30 du coup avec mon grand frère au Red Line le 13 mars. Bon, il n'y a pas de titre, pas d'affiche pour l'instant, pas de vidéo promo, rien du tout. Mais il y a le texte. Et ouais, du coup, il y a mon grand frère qui vient à Montpellier pour qu'on joue ensemble un petit spectacle. Et après, des scènes sur Montpellier, globalement, et sur Lyon aussi. Et voilà, un spectacle pour 2027, on espère. On vise loin, hein. Vous avez vu, vraiment, c'est dans longtemps. Mais...
Ouais, on a le temps, quoi.
Eh bien, super. Merci beaucoup à vous deux pour vos réponses. Merci à nos auditeurs et à nos auditrices, et surtout à toute l'équipe de Divergence.
On se retrouve bientôt pour une nouvelle émission. À la prochaine.
Au revoir.
Au revoir.
C'est le bipède le plus rapide au monde.
Pas ça ! Non !
Ses articulations et tendons très élastiques génèrent une puissance phénoménale. Il confère au volatile vitesse et foulée bondissante.
Non ! Non ! Non !
Peut-être un corbeau ?
L'autruche est le plus grand oiseau actuellement vivant, mais elle est incapable de voler.
Il est bien connu que les autruches, au long cou, enfouissent leur tête profondément dans le sable quand elles se sentent menacées.
Faire l'autruche, c'est refuser de voir un problème en espérant qu'il s'en aille tout seul.
Ah ! C'est embêtant, non ? Les oiseaux, c'est les mecs.
L'autruche.